Et puisque nous voulons voir la différence entre les cinq grandes manières d'être prêtre, et ce que nous voudrions essayer de voir, c'est petit à petit voir. C'est très difficile de savoir ce que c'est qu'un homme si on le compare à une plante. Mais si on le compare par rapport à un animal, c'est plus facile. C'est sûr. Vous comprenez ça? Plus on se rapproche du degré de vie d'une réalité vivante, mieux on va en connaître sa supériorité. Si je compare Dieu à un animal, j'ai beaucoup plus de mal que si j'essaie de comprendre Dieu à partir de l'homme. C'est sûr. Et pareil pour comprendre l'homme, si je pars à partir de la plante, comprendre l'homme à partir du singe, c'est plus facile. C'est d'ailleurs la tentation des évolutionnistes, n'est-ce pas? C'est de ne comprendre l'homme qu'à partir du singe. Mais c'est plus facile. C'est vrai, c'est plus facile. C'est en même temps plus vrai, il y a quelque chose de vrai. Alors, vous vous rendez bien compte que pour la question de savoir ce qui se passe, enfin, avec ce mystère de l'ascension et de la Pentecôte, avant qu'il y ait l'assomption terminale de toute la création dans le retour du Christ, le prêtre éternel, glorificateur de tout, pour comprendre ce mystère du sacerdoce, du prêtre, puisque nous sommes tous prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de prêtre. Qu'est-ce qui est le plus proche du prêtre? Quelle est la réalité vivante la plus proche de ce sacerdoce éternel du Christ? C'est la médiatrice. La médiatrice de gloire, la médiatrice de grâce, la médiatrice de la mère de tous les hommes, la médiatrice de toute l'humanité, la médiatrice. Pourquoi? Parce que, donc je vous répète, la différence entre un médiateur et un prêtre. Donc, je rappelle rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Le médiateur entre le roi et la reine. Enfin, entre le roi de France et la reine d'Angleterre. Donc, le roi envoie un médiateur, un ambassadeur. Et le médiateur envoie la réponse au roi. Voilà ce que c'est qu'un médiateur. C'est quelqu'un qui fait un mouvement et c'est distinct, la fonction est distincte lorsqu'il est l'envoyé du roi et lorsqu'il est l'envoyé de la reine. C'est pas pareil. Marie est médiatrice parce que c'est différent de dire qu'elle est vierge et qu'elle est mère. C'est deux fonctions différentes. La maternité virginale de Marie. Il y a deux fonctions différentes. D'un prêtre, c'est différent. Le prêtre, c'est-à-dire Jésus, il est médiateur dans la mesure où il s'incarne parce que le Père envoie son Fils dans le monde. Il est encore médiateur lorsqu'il ressuscite d'entre les morts et qu'il retourne vers le Père. Là, il est médiateur. Mais une fois qu'il est retourné vers le Père et qu'il a emporté le monde avec lui dans le sein du Père, la relation entre le monde envoyé par le Père et lui est simultanée. C'est pas deux fonctions différentes, c'est une seule fonction. Il est à l'intérieur de toute la création, de chaque être humain, de tous ceux qui ont soif et qui ont été créés pour Dieu. Et Dieu est à l'intérieur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est également à l'intérieur. C'est une médiation dans un seul acte. Il n'y a pas deux fonctions. Prêtre éternel. Le prêtre fait bien l'aller et le retour, mais dans un seul mouvement. Hein? Voilà. C'est facile à comprendre la différence entre un médiateur, la médiation, la médiatrice. Alors pour nous, application, la différence entre la médiatrice, Marie, médiatrice de toutes tes grâces, médiatrice de gloire, médiatrice aussi de la nature humaine dans le Verbe de Dieu, médiatrice de l'eau, médiatrice de sang, médiatrice de gloire. Les trois médiations de la Vierge. C'est pour ça qu'on dit trois « Je vous salue Marie » avant de dire un rosaire. Hein? Bon, alors, tandis que c'est pas pareil, la médiation, elle est vierge, elle permet l'incarnation, elle est mère, elle permet... elle est vierge, donc ça c'est le point de vue de la descente, et elle est mère, c'est le point de vue de la montée, ça c'est facile. Elle est vierge parce qu'elle permet par sa contemplation au Verbe de descendre en elle, de prendre chair. Et elle est mère parce que du coup, le Christ naît à cette vie terrestre pour remonter vers le Père. Ça va ? Mais c'est quand même deux fonctions différentes, successives si je puis dire. Néanmoins, elle restera tout le temps à faire les deux en même temps, simultanément, autant qu'il lui est possible. Mais ce ne sera jamais tout à fait la même chose. Ça va ? Tandis que pour le Christ, être prêtre, c'est-à-dire mettre le monde dans la gloire, dans le salut, dans la purification, dans le Père, dans la lumière, dans l'éternité, c'est la même chose que de mettre l'éternité dans la création, dans l'homme, dans ce qui est pécheur, dans ce qui a soif. C'est la même chose. C'est le même mouvement, c'est le même acte. Alors, c'est le prêtre. Là, pour comprendre le prêtre, il faut regarder la médiatrice. Ça va ? C'est ça que, petit à petit, je voudrais, à travers l'écriture, essayer avec vous de faire, de voir. Comment la femme, n'est-ce pas ? Puisque c'est la question qui m'a été posée, c'est à cause de ça. Comment la femme, la médiatrice, c'est typiquement féminin. Sur le plan de l'eau, du sang et de la gloire. L'eau, le sang, l'Esprit Saint. L'eau représente la nature, le sang représente la grâce et la gloire qui vient du côté ouvert du Christ représente l'Esprit Saint, Dieu lui-même. Marie, eh bien, elle est médiatrice de tout ça. Comme le montre, par exemple, les noces de Cana, Marie au pied de la croix, Marie est médiatrice de tout ça. Elle contemple tout ça, et du coup, elle engendre tout ça en nous. Bon, et ça, c'est typiquement féminin, parce que c'est féminin d'être vierge, c'est féminin, vous ne verrez jamais appliquer la virginité à un homme. Désolé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'hymen à rompre. Bon. Bon. N'est-ce pas ? Alors, de temps en temps, oui, en Israël, on demandait de rompre l'hymen, c'est la circoncision. Ah, voilà un truc intéressant. Il y a un hymen à rompre, c'est la circoncision. On demande à Abraham de circoncire les masculins, les hommes. Pourquoi ? Parce que Israël, c'est l'épouse de Dieu. Mais c'est seulement symbolique, vous comprenez ? Alors, tandis que dans le sacerdoce du Christ, nouveau, les hommes ne sont plus circoncis. Vous comprenez bien que, et c'est normal, parce que c'est le Christ lui-même, à travers le chrétien qui vient prendre, à travers le prêtre, qui vient prendre possession de la création. Donc le signe devient différent. C'est le point de vue de la masculinité et de la féminité. Mais simplement, je tiens quand même à vous rappeler une chose, c'est que être mère, ça n'appartient pas au masculin. La maternité, de porter un enfant dans son sein, puis de le mettre au monde, de lui donner les premiers éléments de sa vie biologique et sa croissance. C'est pas du tout. Bon, tout le monde comprend ça. Bon, si vous voulez des détails, je veux bien approfondir. Hein? Bon. Alors, de sorte que le point de vue de la médiation, être médiateur, c'est féminin. C'est féminin sur le point de vue biologique, du point de vue du corps, c'est féminin au point de vue psychologique, c'est féminin au point de vue naturel, spirituel, c'est féminin au niveau de la grâce, c'est féminin, on le voit bien au niveau de la grâce, puisque c'est par Marie qu'il y a la médiation, on le voit bien. Dieu passe par Marie pour s'incarner. Et nous, Jésus passe par Marie pour s'incarner. Il faut bien voir. Nous, les chrétiens, nous suivons Jésus. C'est Jésus que nous suivons. Où est-ce que tu vas? Par où passes-tu? Jésus dit, venez et vous verrez. Et le Verbe, lui, passe par Marie pour prendre chair. Alors du coup, on suit Jésus partout où il va. C'est pour ça qu'on passe par Marie. Parce qu'on suit Jésus. C'est Jésus que nous suivons. C'est la personne de Jésus que nous suivons. Il est bien passé par Marie pour advenir. Et moi aussi, si je veux commencer à exister dans mon union à Dieu, je passe par Marie. C'est un passage obligatoire. Ce n'est pas facultatif. C'est extraordinaire. Savoir qu'il faut se plonger, s'enfouir dans le silence de Marie pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, la contemplation de Dieu, l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Ça, c'est l'expérience de ça, de toute façon. Vous sentez bien que c'est différent donc d'être médiatrice. La médiatrice, c'est féminin. Tandis que le prêtre, lui, le nouvel Adam, est masculin. Jésus est masculin. Et il est emporté dans les cieux. Et c'est vrai que du côté de l'homme, qu'est-ce que vous voulez, toutes ces opérations vitales, bon, sont toujours très pointues, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et c'est vous comprenez, il y a quelque chose qui fait que dans le Christ, qui est masculin, c'est lui le prêtre. Donc la femme, la nouvelle Ève, Marie, elle est médiatrice, le Christ, le nouvel Adam, lui, il est masculin. Ça, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais il est lui le prêtre. Vous savez bien que Marie n'est pas le prêtre éternel. Pour être prêtre, il faut un certain nombre de conditions. Il faut offrir une victime à Dieu qui satisfasse à tous les péchés pour obtenir le pardon. Il faut une victime, et que cette victime soit une victime d'amour, où tout soit brûlé. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour offrir la victime. Or, la victime, c'est Jésus qui est lui-même victime, et il est en même temps celui qui offre la victime. Il est les deux. Et c'est en s'offrant comme victime qu'il est prêtre. C'est un seul acte. Et on voit bien que le sacerdoce, c'est ça. Et même les femmes dans l'Église sont appelées à s'offrir en victime pour vivre du sacerdoce royal. Mais c'est justement petit à petit qu'il faut essayer de comprendre. D'abord, vive Marie. Vive avec elle cette soif de Dieu, cette descente du Verbe pour qu'il prenne chair et que Jésus soit là. L'envoyer, engendrer autant que possible Jésus partout autour de nous, comme Marie a engendré Jésus dans les terres des hommes, dans la terre des hommes, n'est-ce pas? Et puis engendrer, pousser, offrir Jésus sur la croix, offrir Jésus et le tout son sang, toutes ses souffrances et en même temps toute sa gloire au Père. Toujours offrir Jésus, donner Jésus et se donner avec lui. Et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, je finis par être tellement assimilé à Jésus que je fais comme lui, je m'offre en victime d'amour au Père. À ce moment-là, je passe de la médiation au sacerdoce. Mais une chose est absolument sûre, c'est que Marie est médiatrice en tant que femme et Jésus est prêtre en tant qu'homme. Ça, c'est trop clair. J'espère que vous le voyez. Vous sentez que le prêtre est source de vie. Hein? Il donne la vie, il redonne la vie, il donne le pardon, il redonne le lien avec le principe, avec le Père. C'est lié à la paternité, enfin. C'est pour ça que c'est masculin. Mais pour redonner la vie, il faut qu'il réouvre les sources de la vie, il faut qu'il soit lui-même victime, et à partir de cette victimation, les torrents de vie sortent de lui. C'est ça, c'est masculin. Et Jésus, donc, c'est le fils de l'homme. Quand il dit « je suis le fils de l'homme », c'est ça qu'il veut dire. Il est celui qui sera le prêtre. Il n'est pas encore. Quand il est sur la croix, il n'est pas encore prêtre. C'est ça qui est très... C'est pas si facile que ça à comprendre. Bon, on va essayer de comprendre. Donc, vous comprenez bien que quand on va faire un sacrement, quand dans l'Église, la présence de Jésus comme prêtre va être manifestée au monde, va être manifestée au peuple de Dieu, va être manifestée à l'épouse de Dieu, à la petite contemplative, à la petite carmélite, et va être manifestée, eh bien, il faut qu'il soit manifesté à travers un signe, parce que tous les sacrements sont des signes visibles et efficaces d'une réalité sur notre... Donc, voilà, nous y voilà. Pourquoi ? Ta question était la suivante. Pourquoi l'homme seul peut-il être appelé au sacerdoce sacramentel? Tu vois, et pas la femme. Pourquoi? Alors, à cause de ça, parce que le signe du sacerdoce implique précisément la masculinité, la paternité, et non pas la virginité et la maternité. Et donc, si je fais un signe, c'est-à-dire si je donne le sacrement de l'ordre à une femme, à une religieuse, je veux dire, à une petite carmélite, eh bien, à ce moment-là, le signe de la masculinité n'y est pas. Et donc, le sacrement, le caractère, le pouvoir sacerdotal, sacramentel, ne rentrera pas dans son âme. Parce que s'il n'y a pas le signe, il n'y a pas la descente du sacrement. De même que si je prenais, par exemple, à la place du pain à l'Eucharistie, si je prenais... Eh ben, je ne sais pas, un bout de papier, ou même une autre nourriture, ça m'est égal, tout ce que vous voulez, un chewing-gum, même en faisant la même forme, ce ne serait pas du pain, ce serait un chewing-gum, eh ben, comme c'est pas, ça ne répond pas au signe de l'Eucharistie, parce que le pain, ça se digère, et ça se transforme en vous-même, tandis qu'un chewing-gum, vous le mâchez, et après vous le crachez. Eh oui, c'est pas le même signe. Et donc, si le pape fait la messe avec un chewing-gum, même si on fait un concile, Vatican III, pour décider si c'est avec un chewing-gum, c'est plus moderne, hein, eh ben, ça marchera pas. Pourquoi ? Parce que le signe ne sera pas respecté. Et le signe, qui est-ce qui donne le signe ? C'est l'Église qui décide le signe ? Non, c'est pas l'Église qui décide le signe, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation, c'est l'Écriture. C'est dans l'Écriture qu'il faut du pain et du vin. Et c'est dans l'Écriture que Marie, c'est une femme, et que le prêtre, c'est un homme. Les Anglaises ont beau hurler, c'est comme ça. Et on ne discute pas l'Écriture. Et donc, si on reçoit l'ordination sacerdotale, le sacrement ne pénètre pas. Elles disent la messe, il n'y a pas de transubstantiation, c'est toujours du pain et du vin. Les gens, ils croient communier, mais ils communient à rien du tout. Ils communient au contraire à une liturgie qui implique un signe inversé. Donc, ils reçoivent une bénédiction à l'envers. Ça s'appelle une malédiction. Et tous ceux qui assistent à une messe célébrée par une femme reçoivent la malédiction de Dieu. Ça rappelle qu'une malédiction... ça se transporte sur 4 générations. Donc, par charité pour vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, n'assistez pas à une messe célébrée par un signe inversé. J'espère que c'est clair. Et c'est à raison du sacrement. Quand il y a eu cette histoire en Angleterre, Rome a répondu, c'est à cause du sacrement. Et le sacrement est un signe qui doit respecter la matière de la visibilité à quoi correspond ce signe. Jésus est prêtre. Parce que Marie, elle est vierge. Et par sa virginité, elle est maternelle. Elle est mère. Et sa maternité est virginale. C'est déjà pas mal aussi, je vais vous dire. Être médiatrice, non seulement c'est pas mal, mais Jésus en tant qu'homme, en tant que prêtre, est supérieur à Marie, ça je suis d'accord. Mais Marie en tant que médiatrice est supérieure à moi. Parce que moi je suis pas Jésus, moi. Jésus est un homme. Mais la nature humaine du Christ, qui est totale, plénière, absolue, subsiste dans un être qui est l'être premier, c'est Dieu. Donc Jésus n'est pas un être humain, c'est un être divin. Parce que moi je suis un être humain, Marie aussi est un être humain. Elle subsiste pas dans une personne divine. Marie c'est un être humain. Eh bien en tant que femme, elle est supérieure à moi. Parce que moi, je suis un... Même si j'ai reçu le sacerdoce sacramentel. Ah, donc on va pas dire, ouais, la médiatrice, c'est un... C'est inférieur, c'est supérieur au sacerdoce, etc. Comprenez ? Non. Bon, alors, il faut saisir ça petit à petit, mais c'est à partir de l'écriture qu'il faut petit à petit comprendre ces choses-là. Donc, est-ce que ça va ? Donc, je ne réponds pas hein, par rapport à la matière, mais plutôt par rapport au signe aujourd'hui. Parce que la matière du sacrement, bon, on y reviendra peut-être si on a le temps. Sur la matière du sacrement de l'ordre.
Est-ce qu'il dirait qu'on est passé problème en disant quelqu'un de l'Église à ce poste nouvelle en histoire est-ce que...
Ah, dans l'Église. Alors, tiens, je tiens à vous dire. Moi, je vous dis ça, n'est-ce pas ? Mais je vous ai expliqué hier que l'Église, sur le sacerdoce, n'a rien dit. Pendant 1900 ans, 1950 ans, rien. Enfin, rien. Un petit peu quand même. Donc, par exemple, on va dire, bon ben voilà, la matière du sacrement, c'est au moment où l'évêque... C'est ce qu'a déclaré la matière du sacrement de l'ordre, c'est au moment où on donne l'ordination. Hein? Donc, à quel moment il y a la matière, à quel moment il n'y a pas la matière. Voilà ce que l'Église disait. Alors, il se trouve que l'Église a décidé différents types de matière dans l'histoire. C'est pour dire que vraiment, à un moment donné, c'était au moment où l'évêque te donnait le calice, avec du vin dedans, pas encore consacré, et la patène. Là, ça y est, tu recevais le pouvoir apostolique et sacerdotal. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Depuis Pie XII, ça a changé. Donc c'est récent quand même. C'est au moment où l'évêque impose les mains silencieusement. Là, la transmission du pouvoir apostolique. Directement. Et le type, après, quand il prendra du pain et qu'il dira « Ceci est mon corps, c'est Jésus à travers lui qui réellement... » va assimiler le pain et le changer substantiellement son corps.
La forme, c'est les paroles de l'évêque, c'est ça ?
Alors oui, la forme, c'est les paroles de l'évêque qui va dire plus tard dans la préface. C'est pas au même moment la matière et la forme.
Alors, si le fait d'être masculin ou pas n'est pas la matière...
Non, mais alors ça, c'est la matière de la transmission. Donc jusqu'à maintenant, on a précisé, saint Thomas d'Aquin, Concile de Trente, Pie XII, on a précisé la matière de la transmission du pouvoir sacerdotal. Mais on n'a pas vraiment, on n'a jamais précisé le point de vue de la matière du signe sacramentel, hein, pour une raison très simple, c'est que je crois que c'est parce que l'Église n'avait pas encore précisé l'Immaculée Conception, l'Assomption, ni le mystère de la sponsabilité. Parce que tu vois bien que c'est un mystère sans... La sponsalité, c'est-à-dire l'épousaille entre la médiatrice et le prêtre, tu ne peux pas comprendre cette division entre sacerdoce sacramentel et sacerdoce royal. Donc, pour l'instant, on n'était pas, on n'avait pas encore la matière, j'allais dire dogmatique, doctrinale, c'est celle qui relève de l'infaillibilité, qui permet de déterminer exactement quelle est la matière du signe. Ça va ?
En théologie, maintenant, donc,
en théologie, maintenant, on pourrait le faire. C'est ce que nous faisons. Et quand on te canonisera comme docteur, on dira, bon, ben voilà. dira, c'est grâce à Saint Pascal, Saint Pascal Marie de la très sainte sponsorité, que l'Église comprend maintenant, enfin, le dernier mystère. C'est Saint Pascal, le docteur qui clôture. Encore faut-il qu'il réponde à sa vocation. Alors, vous avez... Hey, tu vois, ça va ensemble. On passe d'abord par la contemplation de la responsabilité avant d'arriver à la contemplation et à l'assimilation du sacerdoce. Bon, alors vous avez... Très bien. Alors, donc, on dit... Non, mais c'est ça. Pour tous, pour tout le monde, c'est comme ça. Pour tout le monde, c'est comme ça. La femme est médiatrice, toujours, toujours. Oui, non, mais je parle pas de toi.
Le seul fondement, en fait, c'est le fondement scripturaire. On sait que le Christ n'a choisi que les hommes comme apôtres, déjà.
Attends, le fondement...
Parce qu'il a choisi les 12 apôtres, c'était pas, il n'y avait pas Marie-Madeleine dans les 12 apôtres. Il a bien choisi que des hommes.
Ah oui, non, mais ça c'est l'histoire. Bon, ben, il y a également des choses qu'il a choisies. Il a choisi d'autres choses que l'Église a choisies différemment après. Donc que l'Église, qu'elle complète l'œuvre, l'Église est épouse du Christ. Donc qu'elle ait complété, qu'elle ait apporté son initiative, ses beautés, ses intuitions, etc. à l'œuvre de l'épouse, c'est normal, c'est une œuvre commune. Donc il y a des choses qui viennent de l'épouse, des choses qui viennent de l'époux. Donc si le Christ a choisi un certain nombre de choses, l'Église peut aussi, pourrait, dans certains cas, sauf lorsque c'est le sacrement lui-même dans sa substance qui explose si elle change l'apport de l'époux dans sa substance. Bon, mais il est bien évident que à partir du moment où on ne respecte pas le signe incarné du sacerdoce, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se trouve que le Verbe de Dieu a pris chair dans une chair masculine. Ça, tu ne peux pas l'enlever. L'Église peut faire tout ce qu'elle veut, mais pas enlever ça. Et c'est cette chair masculine qui a été emportée dans la paternité éternelle de Dieu par l'ascension. D'accord ? Et du coup, bah, j'allais dire, tout le mystère de l'Église, tout le mystère de la Pentecôte est lié à ça. C'est qu'en l'absence du nouvel Adam, la nouvelle Ève, Marie, qu'est-ce que tu veux ? Elle a réagi de manière féminine. Je suis désolé. C'est terrible ça de vouloir que l'homme m'aime comme une femme m'aimerait. Mais enfin, on n'est pas des homosexuels ni des. Vous comprenez ? Bon, alors, Jésus, c'est Jésus, nouvel Adam qui est monté aux cieux. Vous comprenez ? Et c'est Marie, nouvelle Ève, qui était là. Mais quand. Et grâce à cette soif, cette tension entre le prêtre éternel et la médiatrice de toutes les gloires, c'était cette tension qui a fait l'arc électrique de la Pentecôte. C'est ça. Ça, c'est dans l'Écriture. Ça. C'est dans l'Écriture. L'envoi de la deuxième personne de la très sainte Trinité, qui est le fruit du sacerdoce éternel du Christ et du sacerdoce royal de la femme, dans l'unité des deux, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'envoi de l'Esprit Saint. C'est lié à la sponsalité. Il faudrait regarder tous les temps, tous les moments. Parce que le premier moment, c'est l'ascension. Le second, c'est la Pentecôte. Le troisième, c'est la dormition. Le quatrième, c'est l'Assomption. Le cinquième, c'est la royauté éternelle de Marie. Le sixième, c'est la Jérusalem céleste. Le septième, c'est la récapitulation glorieuse de tout. À chaque fois, Jésus, grand prêtre, et Marie, médiatrice, jouent un rôle capital. Toute l'Apocalypse, c'est pour révéler ça. Dernier livre de la Bible. Donc c'est un mystère sponsal, le sacerdoce. Et c'est pour ça qu'on ne se marie pas quand on est prêtre. Parce que c'est un mystère sponsal. Et le mystère sponsal implique une fidélité absolue. Il n'y a pas, on n'a pas à se marier avec trois ou quatre femmes, ni avec deux. C'est un mystère sponsal. On est totalement pris par son unique épouse. C'est parce que c'est un mystère sponsal. Et au fond, si une église chrétienne des derniers temps refuse le célibat des prêtres, c'est qu'il refuse le retour du Christ. C'est tout simple. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on pouvait se marier. C'est un mystère sponsal, c'est un mystère d'époux et d'épouse. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que la fécondité est substantielle. La fécondité du sacerdoce, elle est substantielle. Je donne vraiment le Christ substantiellement. Dans un mariage, je donne à Dieu des enfants qui existent substantiellement. La fécondité est substantielle. Comme la fécondité est substantielle, elle implique une fidélité exclusive d'époux et d'épouse. Et si je me marie avec quelqu'un d'autre, il y a un adultère. Si je me marie avec quelqu'un d'autre, je suis prêtre, je me marie en même temps avec Marie-Odile. Bon, il n'y aura pas un adultère parce que ce sera comme Joseph avec la Vierge Marie, automatiquement. N'est-ce pas ? Non, mais enfin, supposez. Hein? Voilà, à ce moment-là, il y a un adultère. Il y aura un adultère. Vous comprenez ? Il y aura quelque chose d'adultérin, là. Il y aura une infidélité. Vous voyez ça ? Ces petits enfants du curé qui sert la messe, ça va pas. Ça va pas. Parce que il y a deux sources de fécondité. Son unité avec l'Église produit l'Eucharistie. Son unité avec son épouse produit le petit enfant de cœur. Deux sources d'unité. Ça va pas. Parce que la fécondité substantielle implique une unité substantielle. Et l'unité ne se divise pas. Bon, mais ça, c'est des grands principes tout simples. Alors, oui. Ah, mais on les vénère très, très profondément, ça, oui. Bon, alors... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a pour les orthodoxes, sœur Myriam ? Attends, lesquels ?
Les prêtres.
Ah, les prêtres, oui. Bon, je vous avais déjà expliqué ça, je veux bien le réexpliquer, mais c'est un petit peu en dehors de notre sujet. Mais je veux bien le réexpliquer. Il y a différents degrés dans le sacerdoce. Le sacerdoce sacramentel, c'est Jésus prêtre éternel au ciel, qui exerce le ministère du sacerdoce, surnaturellement parlant. Il y a un seul prêtre. C'est Jésus, à la droite du Père, emporté dans la gloire. Un seul prêtre, Jésus. Ça va ? Premier degré. Il communique la plénitude de son pouvoir sacerdotal au collège apostolique, les évêques et leurs successeurs. Plénitude du sacerdoce. Lesquels peuvent déléguer une partie de leur pouvoir sacerdotal à certains hommes choisis et élus par Dieu de sexe masculin, qu'on appelle les prêtres. Les prêtres eux-mêmes et les évêques peuvent choisir quelques individus particulièrement prudents, sages et généreux pour recevoir le sacrement du diaconat, qui est un sacrement de l'ordre, qui implique une participation substantielle à la présence sacerdotale du Christ. Et enfin, il y a les ordres mineurs, qui sont le déploiement sacerdotal du sacerdoce du baptismal. Donc j'ai 5 degrés dans le sacerdoce. Est-ce que c'est clair ? Bon, pour les orthodoxes, les degrés inférieurs peuvent se marier, puisque la fécondité substantielle plénière n'y est pas. Pour les orthodoxes, et pour certaines... Pour les orthodoxes, ils croient quand même au sacrement de l'ordre, ils croient au sacrement du prêtre tout de même. Ils savent bien. Chez les anglicans aussi, hein, je vous signale d'ailleurs, en Angleterre. Donc, on peut se marier, si vous voulez, si on est baptisé, vous le saviez, même dans l'Église catholique, c'est pareil. Si on est diacre, Même dans l'Église catholique, c'est pareil, puisqu'on peut ordonner des gens mariés, diacres.
Mais pas l'inverse,
d'accord. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus. Dans l'Église catholique, on peut se marier. Bon, je sais pas, j'ai dû oublier un phénomène là. Ah oui, c'est ça. Dans l'Église catholique, on peut se marier. On peut se marier prêtre dans certaines. On peut ordonner à quelqu'un marié comme prêtre dans certaines rites, comme par exemple chez les maronites, les coptes de rite catholique, et chez les uniates en Ukraine, c'est-à-dire les catholiques de rite oriental. Ça va? Bon. Mais dans le rite latin, on ne le fait pas. Ben, mais dès qu'il s'agit de l'épiscopat, être évêque, impossible. Ça va? Que ce soit dans l'orthodoxie ou dans l'Église apostolique. Parce que c'est dans l'Écriture, un évêque, eh ben, il a la plénitude du sacerdoce. Comprenez que l'évêque, il a une fécondité substantielle. Le diacre, réalise, en raison du caractère sacramentel de l'ordre qu'il reçoit, une présence réelle. C'est ça hein, qu'on voyait un diacre. Hein. Une présence réelle de Jésus, présence réelle. Il est l'ostensoir de la présence réelle, de la vie fécondant la gloire du Christ prêtre. On devrait se mettre à genoux devant un diacre quand il actue son sacerdoce diaconal. Nous devant une hostie quand elle n'est pas consacrée. Elle est en puissance à devenir le corps du Christ. Alors vous mettez à genoux une fois qu'elle est consacrée. Donc je reçois le caractère sacerdotal, mais lequel apparaît, jaillit, est actuel quand j'agis comme diacre, ou quand j'agis comme prêtre, ou quand j'agis comme évêque. Oui, ça va? À ce moment-là, présence réelle. Réelle, actuelle, substantielle, personnelle, divine, humaine, du Christ qui, dans sa vie intime, est source d'Esprit Saint. C'est génial. Vous voyez, dans l'Eucharistie, quand on adore le Saint-Sacrement, c'est pas tout à fait pareil. C'est le corps, c'est pas la vie intime, l'âme humaine de Jésus, source de gloire. C'est le corps ressuscité de Jésus, qui attire tout à lui. C'est pas du tout la même chose que Jésus, dans sa vie intime, source de toute gloire. Pas pareil. Oui.
Dans l'hostie consacrée, il y a tout. Jésus est présent.
Figure-toi, si je vais te l'apprendre, que l'âme humaine du Christ n'est pas séparée de son corps. Ouais. Et que la chair du Christ n'est pas séparée de son âme. Hein. Ça va?
Ouais.
Bon, ok. Voilà. C'est vrai, donc, mais c'est pas la même médiation d'amour, c'est pas la même donation d'amour, ça va? C'est pas le même type. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure, je sais plus à qui, si je sais, mais que c'est quand même pas pareil. C'est tout de même pas pareil quand tu aimes quelqu'un, hein, et que tu lui dis, eh ben, écoute, voilà, je te livre un secret intime, profond. Tu vois, tu lis vraiment un secret, par amour. Hein. Tu vois? Ça va? Et puis, à un autre moment, ah ben, allez, tu la prends dans tes bras, et tu l'aimes, tu vois, un enfant, c'est merveilleux. Hein, une étreinte, une confiance, bon, tu vois, ok, ça va. Bon, puis, y a sept manières de s'aimer de manière totale, ça va. Bon, alors, à travers l'Eucharistie, tu vois, c'est une certaine manière, c'est le corps, c'est pas la tendresse de Dieu, cette tendresse de Dieu qui nous attire. Quand on est devant le Saint-Sacrement, c'est le corps de Jésus glorieux qui attire tout à lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est le corps de Jésus, cœur ouvert de Jésus, attraction d'amour. Bon, quand c'est le prêtre, c'est sa vie intime, c'est son âme. Il livre son secret dans son éternité glorieuse. Et il est source de gloire pour nous. Je suis arrosé de gloire, emporté, transformé, converti. C'est pas pareil comme donation d'amour. Si avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu dis non, 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 juste un, avec tu me livres tes secrets, mais pas plus, hein, top. On dit, bah, très bien, quoi, oui, mais c'est. On va se sentir au bout d'un certain temps un peu, hein, Bon, on va faire un petit voyage dans le nord, hein, dans les pays froids. Bon, alors, pour se retrouver dans la même atmosphère. Bon, alors donc, il faut une atmosphère donc complète, c'est normal. Donc, c'est pas la même chose Jésus qui nous aime dans l'Eucharistie. Il nous aime totalement dans l'Eucharistie. Il se donne totalement dans l'Eucharistie. Et il se donne aussi totalement comme prêtre à travers le sacrement du sacerdoce. Ça, je pense que vous le comprenez. Mais alors, voyez donc que le diacre, deuxième degré, premier degré, le sacrement de l'ordre dans les ministères inférieurs, le sacrement de l'ordre diaconal, le sacrement troisièmement, le sacrement de l'ordre comme prêtre, quatrièmement, le sacrement de l'ordre comme plénitude du sacerdoce. Présence ici, c'est diaconal, présence réelle du Christ prêtre éternel. Troisièmement, le prêtre. Ah, le prêtre, lui, il a une fécondité. Non seulement il y a la présence réelle, sacramentelle, personnelle, divine de Jésus comme prêtre éternel, qui donne sa vie pour me glorifier. Mais j'ai aussi un prêtre qui peut transformer le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ. Il y a une fécondité, quand même, de plus. Mais c'est une première fécondité. Il peut également pardonner les péchés dans certaines conditions. L'évêque a une autre fécondité supplémentaire, c'est qu'il peut faire un autre prêtre ou un autre évêque. Ce qu'un prêtre ne peut pas faire. C'est le drame de Luther. Parce qu'il était prêtre, Luther, mais il n'était pas évêque. Donc il ne pouvait pas faire d'autre évêque. Vous voyez ? Alors, donc il n'avait pas le pouvoir. Donc la fécondité substantielle plénière n'est que dans l'épiscopat. C'est pour ça que l'Église a toujours dit « Le mariage est exclu dans le cadre du sacerdoce qui implique la fécondité en plénitude. » Faire quelqu'un semblable à soi. Faire un autre évêque. Faire un autre prêtre. À ce moment-là, la responsabilité doit être absolue. Mais l'Église catholique a tellement le sens que de célébrer l'Eucharistie et transformer le corps et le sang du Christ dans la présence de Jésus, et que Jésus, c'est le prêtre, justement, qui est là, dans l'Eucharistie. L'Église catholique, l'Église latine, a tellement le sens de la présence substantielle, de la présence de la transsubstantiation. C'est vrai que c'est la seule... finalement, tu engendres quelqu'un de semblable à toi quand tu engendres l'Eucharistie. Tu engendres le prêtre, Jésus. Ça va ? Donc c'est pour ça que dans l'Église latine, on va considérer que c'est normal que dans le sacerdoce, c'est une fécondité quand même substantielle hein, et surnaturelle, hein, qui implique le point de vue de l'incréé tout de même. Alors, mais on est d'accord que, je suis d'accord que dans l'Écriture, les Actes des Apôtres, seuls les évêques, seulement aux évêques, on leur demande la fidélité absolue dans la monogamie surnaturelle. Ça va ? Voilà. Donc, c'est ce que ça va pour l'orthodoxe ? Bon, et si un jour on trouve une église chrétienne où on voit un évêque qui peut se marier, eh bien, c'est une aberration. C'est contraire à l'Écriture. Ça peut arriver, c'est possible, mais je tiens à vous dire, c'est une aberration. C'est dans l'Écriture. Donc, dans l'Écriture, on ne peut pas y toucher. Ça va ? C'est un mystère d'époux et d'épouse. Alors, je peux vous lire quelques petits passages de ce qui est sorti là il y a 2 mois, qu'on attendait depuis 1947 ans à peu près. Je vais vous lire quelques petits passages quand même. Achetez-le hein, si jamais ça vous intéresse. Directoire pour le ministère et la vie des prêtres. C'est Rome qui a sorti ça. C'est pas le pape qui signe, mais c'est la congrégation romaine pour les prêtres.
Mais c'est le pape est à l'origine de tout ça, évidemment, sans doute. Enfin, il est derrière, en tout cas. Il a coopéré, ça, c'est sûr. Alors, premier chapitre, l'identité du prêtre. Première partie, l'identité du prêtre. Le prêtre, son identité. Son identité. Donne-moi ton identité. Qui es-tu? Où vas-tu? Que cherches-tu? Quelle est ton identité? L'identité du prêtre, vous répondrez spontanément quoi? L'identité du prêtre. Voilà, Alter Christus dirait ça. Eh bien, l'identité du prêtre implique la présence du Christ, la présence, le visage du Saint-Esprit, le visage de la très sainte Trinité. J'ai trois visages. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qui cherches-tu? Le Christ, c'est un espèce de personnage dont l'identité a trois faces. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert. Et en réalité, vous ne voyez que du vert. Parce que le jaune, le bleu et le vert sont confondus. Et vous savez que le jaune et le bleu, de toute façon, ça fait du vert. Donc, plus le vert, ça fait encore du vert. Mais c'est le visage du Christ glorieux qui engendre la gloire. C'est le visage de cette gloire qui est l'Esprit Saint, qui fait l'unité intime entre le Père et le Verbe incarné. Et puis, c'est le visage de la très sainte Trinité. C'est le visage de la paternité. C'est pour ça qu'on dit, mon Père, un prêtre. On dit mon Père à un prêtre, pourquoi? C'est conventionnel, c'est pas conventionnel. C'est parce que quand je me mets à genoux devant Jésus hostie, devant l'Eucharistie, je dis mon Seigneur et mon Dieu. Je dis, c'est aberrant, je vais pas dire mon père à un prêtre quand même. Pas dire mon père. En plus, c'est mon cousin Germain. Je vais pas lui dire mon père, c'est mon petit neveu. C'est mon petit neveu qui a été ordonné. Je vais pas lui dire mon père quand même. Vous comprenez? Mais je dis, mais tu te mets à genoux devant du pain, tu dis mon Seigneur et mon Dieu. Alors, tu crois au sacrement? Tu crois pas? Il se met à genoux devant du pain, le mec. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Et il trouve aberrant de dire mon père à son fils qui est prêtre. Ça veut dire qu'il continue à voir que son fils, ça veut dire qu'il voit pas qu'il y a le sacrement. Donc il croit pas. Donc il pense que son fils n'est pas. Et profondément, son cœur n'est pas dans sa foi. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. On dit mon père, pas parce que c'est ton fils. Tu dis que c'est ton fils, tu vois, qui est prêtre, mon papa, là. Mon père, mon papa, je veux dire. C'est vrai. Mais depuis que je suis prêtre, figurez-vous, que mon père se met à genoux. Moi, j'ai jamais vu mon père se mettre à genoux à une messe, à la consécration. Rester debout. Et à partir du moment où j'ai été prêtre, il est à genoux au début du canon. Extraordinaire, ça. Et je lui ai rien dit. Personne ne lui a rien dit. Je lui ai pas dit papa à genoux. Et lui, mon père, mon Seigneur et mon Dieu. Non, 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 spontanément. Pourquoi? Parce qu'il croit au sacrement. Il sait très bien que la matière qui a reçu le sacrement, son fils, est totalement inadaptée. Il le sait très bien. C'est une matière contradictoire. Ça, il le sait très bien. Voilà. C'est pour ça que c'est facile pour lui de croire au sacrement. C'est tellement aberrant. Il n'y a pas que lui qui considère que c'est aberrant. Bon. Moi aussi, je suis écrasé. La paternité sous le visage du Christ, sous le visage du Saint-Esprit. Vous voyez, le Christ, le Saint-Esprit, il faudrait toujours faire des dessins, mais je m'excuse, mais c'est normal. Hein. Hop. Voilà. Nous, on est là, en bas, dans la terre. On est la Neshama de la Très Sainte Trinité, n'est-ce pas ? On est en dessous du niveau de la mer. En dessous du niveau de la mer. En dessous du niveau de la terre aussi. On est dans la création. Hein? Le Christ, lui. Oups. Le Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est dans l'éternité. Il est dans la Très Sainte Trinité. Il est dans la Très Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, il est très heureux parce qu'il est en face. Ouais. Il est en face du Père. Il est en face du Père. Il est en face du Père. Et ce face-à-face avec le Père produit comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Ce face-à-face avec le Père produit une extraordinaire unité avec lui, un tourbillon de gloire qu'on appelle l'Esprit-Saint. Et qui est Dieu à lui tout entier. Le Père et le Fils, il n'y a plus que l'Esprit-Saint. Dieu est amour. Donc le prêtre, lui, quand il reçoit le sacrement de l'ordre, voilà, eh bien, il est le visage du Christ, il est le visage du Saint-Esprit, mais comme le Saint-Esprit ne peut pas être vu si on ne voit pas la paternité dans le Père éternel, dans le Fils éternel, dans un amour total, c'est aussi le visage du Père. C'est pour ça qu'on dit « mon Père ». Mon Père. Curieux, quand on est face à l'Eucharistie, on se met à genoux, on ne dit pas mon Père. Hein ? Tu ne dis pas spontanément mon Père à Jésus Eucharistie. Pourquoi ? Parce que c'est le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas, j'allais dire, il est directement lié à la présence vivante, incréée du Père. Mais c'est quand même par la médiation du Verbe. Et le Verbe n'est lié au Père que par l'Esprit Saint, que dans l'Esprit Saint. Donc, il y a encore des médiations. Tandis que dans le sacerdoce, il n'y a pas de médiation. Donc, c'est un sacrement qui est grand. Quand vous voyez un prêtre qui essaie de dire sa messe autant qu'il peut, même si c'est pauvrement, hein, même si c'est lamentablement, hein, même si c'est... qui est là, c'est plus, vous avez quelque chose de plus grand que si vous aviez le Saint-Sacrement voyez bien, avec vous, là. Il faut comprendre ça. Et en même temps, c'est pas une fin en soi. Dans ce cas-là, on va tous s'agglutiner autour des prêtres. Les pauvres, ils vont mourir d'étouffement, ça va être un génocide extraordinaire. Plus de prêtres. Pas étouffé par l'amour, mais oui, attention, parce que le sacrement n'est pas une fin en soi, le sacrement est un instrument, c'est un moyen, c'est une voie, c'est un sacerdoce, c'est un chemin, c'est une pontifex, au-dessus des évêques, le pontife. D'ailleurs l'évêque lui aussi est pontife, c'est un pont entre la création et la très sainte Trinité. Donc, très bien, je reçois les torrents qui dévalent de ce pont, cette très sainte Trinité qui dévale en moi, et je vis la très sainte Trinité. Je vis du Père. Sachant que la vie intime de Jésus, l'âme humaine de Jésus, source de l'Esprit Saint est en moi, et du coup, je suis face au Père, dans le Père, directement touchant le Père. C'est le but, c'est la finalité, c'est la res du sacrement, ça. Hein, on va revenir là-dessus. C'est le but, donc on ne s'arrête pas au sacrement, qui est la présence de ça, c'est bien, mais que je jouisse du fruit du sacrement, c'est ça le but, c'est sacerdoce royal. Sacerdoce royal, c'est d'être en présence de la Très Sainte Trinité. Donc, voilà la première chose qu'on a, qui est pas mal. Hein. Deuxièmement, vous pouvez fouiller dans tous les autres documents de l'Église depuis 1950 ans, vous n'avez jamais ça. Hein. Jamais. Dimension ecclésiologique. Ah, il y a une relation d'un sacerdoce, deuxièmement, avec l'Église, avec le peuple de Dieu, avec le corps mystique, de tous ceux qui ont soif de Dieu et qui ne se détournent pas volontairement, lucidement et habituellement et continuellement de toute grâce de Dieu. Alors, vous êtes liés à ce corps mystique qui implique des millions de cellules d'innocence divine, triomphante dans leur traction vis-à-vis du Père. Participant, le prêtre participe d'une certaine manière à la sponsalité de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je m'excuse, on n'y arrivera jamais. Sponsalité. Sponsalité. Ça veut dire l'union amoureuse par la médiation du corps entre un homme et une femme. Sponsalité. La relation et la communication de vie mutuelle entre un homme et une femme par le corps. Sponsalité. Parce que par le corps, quelquefois, on se communique dans l'unité de vie à d'autres choses que la vie spirituelle, n'est-ce pas ? Ça peut être simplement des sentiments, des mélanges sentimentaux, un mélange détonnant, extraordinaire, un volcan qui... Là, il y a des éruptions volcaniques particulières, n'est-ce pas ? Bon, mais là non, quand c'est la communication d'une unité, une unité absolue de vie spirituelle par le corps entre un homme et une femme, sponsalité. Ça va ? Eh bien, le prêtre participe d'une certaine manière à la sponsalité de Jésus-Christ. Normal, donc on va y avoir les fameuses cinq modalités sponsales du Christ qui peuvent être réveillées dans le sacerdoce d'un prêtre. Et donc l'unité correspondante qui va pouvoir être actualisée dans le sacerdoce royal des fidèles. Vous voyez bien, vous sentez bien qu'il y a donc un lien direct entre sacrement de mariage et sacrement du sacerdoce. Et qu'il faut absolument qu'ils soient séparés, sinon respectés dans leur authenticité, dans leur pureté. Sinon, il ne peut pas y avoir ce mariage final. Qui est la clé de voûte, dire, de la gloire de Dieu dans le temps et du temps à l'intérieur de l'éternité glorieuse. Impossible. Pour ça, c'est tellement lié à là, au retour du Christ. Les prêtres constituent avec leur évêque un seul presbytérium, donc un seul sacerdoce éternel. Je vais vous commenter ça. Participe à un degré subordonné au sacerdoce du Christ. Ah oui, mais j'ai tellement gribouillé. D'une certaine manière, il participe aussi à cette dimension sponsale vis-à-vis du corps mystique de l'Église, signifiée dans le rite de l'ordination de l'évêque par la remise de l'anneau, une alliance. L'anneau de l'évêque, c'est l'alliance. C'est l'alliance sponsale avec le corps mystique de Jésus. À chaque fois que l'évêque pénètre dans l'église, dans une cathédrale, où il y a une assemblée, il pénètre, et ben, il rentre dans le sein de la Vierge épouse qui est l'assemblée pour lui communiquer la vie. Un mystère sponsal. Et l'Église qui est là, c'est-à-dire nous, ben on reçoit cette pénétration surnaturelle, incréée, vivante. Comme ça qu'on doit le vivre. Quand le prêtre rentre dans l'Église, C'est quelque chose de sacré. Les prêtres, au sens où l'amour est sacré, quand l'amour implique le corps, l'âme, l'esprit et Dieu. Par responsabilité, c'est on passe, on décolle par le corps, par le sacerdoce, on décolle par l'incréé. Mais c'est les quatre qui sont impliqués, dans les deux cas. Donc il y a une complémentarité entre le mariage, comme sacrement, et le sacerdoce, comme sacrement. Les prêtres, qui dans chacune des communautés locales de fidèles, rendent pour ainsi dire présent l'évêque, auquel ils sont unis dans la confiance et la magnanimité, devront être fidèles à l'épouse. Et, c'est-à-dire, toute l'assemblée qui est là, et qui, vous savez, quand vous êtes tout proche de votre épouse, pour ceux qui sont mariés, hein, il n'est pas là d'Ambert, hein, mais... Quand il est tout proche de toi, quelquefois, et tout proche, quelquefois il ne voit que le blanc de ton œil, il est tellement proche qu'il ne voit pas le dessous de tes pieds. Tu comprends? Plus tu es proche de ton épouse, plus tu vois seulement une partie. Tu comprends? Alors, lorsque le prêtre rentre dans l'église, il a juste une partie de l'église, on est seulement 12 à la messe aujourd'hui, mais tant mieux. Ça veut dire que tu dois être de plus en plus proche de l'Église, n'est-ce pas? Mais quand tu touches l'œil, la pupille de la colombe de ton épouse, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, tu es tout proche de l'Église tout entière, comme prêtre. Et l'Église tout entière reçoit le baiser de l'époux du Christ. Du Christ assis à la droite du Père, source du Saint-Esprit pour le Père et pour nous. Et donc, ils devront être fidèles à l'épouse, et comme des icônes vivantes du Christ époux. Icônes seulement, visage, icônes. Ils devront rendre opérant le don multiforme du Christ à son Église. Et puisqu'il est appelé dans un acte d'amour surnaturel absolument gratuit, le Christ doit aimer l'Église comme le Christ l'a aimé, lui consacrant toute sa vie, toutes ses énergies, se donnant dans la charité du pasteur, du Père, jusqu'à se donner quotidiennement sa propre vie. Vous voyez, donc vous avez les trois encore là. Le prêtre doit aimer l'Église comme le Christ l'a aimé, lui consacrant donc, comme le Christ l'a aimé, voilà pour le Christ. En gloire. Lui donnant toutes ses énergies, toute sa vie, voilà pour l'amour du Saint-Esprit. Se donnant dans la charité du pasteur et du Père, voilà pour la présence du Père. Jusqu'à donner quotidiennement sa propre vie pour eux. Et c'est ce qu'il fait, hein. De temps en temps, il faut aller dans le petit monastère, dans des séminaires. Ah, il faut visiter de temps en temps ces petits séminaires. Ces séminaires, vous voyez ces jeunes gens-là qui ont... L'autre jour, j'étais à Saint-Gervais, samedi dernier. Et puis j'ai vu trois séminaristes qui étaient là. Même écoutez, s'ils étaient dehors, là, toutes les petites retraitantes qui sont ici, elles seraient dehors, parce que magnifique ces mecs-là, extraordinaire, une beauté extraordinaire. C'est merveilleux. Et ils donnent toute leur vie. Mais et puis en plus c'est clair, ils resplendissent ces gars-là. C'était tout à fait étonnant. J'étais même un petit peu étonné. Je dis, tiens, ça existe encore des types aussi équilibrés, aussi rayonnants, aussi incroyables, aussi beaux, aussi intelligents, aussi. J'étais complètement étonné. Ah ouais, mais je comprends. Et ça fait 3 ans que. Et depuis peut-être l'âge de 10 ans aussi, que. Ils avaient donné leur vie, hein. Pour qui? Pas pour eux! donner leur vie parce qu'ils sont prêts à donner ce qu'il y a de mieux, ce qui fait le plus de bien à l'humanité, à ceux qui ont soif de Dieu, quoi. Ils sont prêts à donner le Christ, c'est pour les autres, hein. Il n'y a rien pour eux. C'est justement ce qu'on pourrait voir, hein. Il n'y a rien pour nous. Quand nous recevons le sacerdoce, nous ne rajoutons rien, rien. Au Christ. Entre le sacerdoce éternel du Christ et le sacerdoce sacramentel ne rajoute rien au sacerdoce du Christ. Tandis que le sacerdoce royal des fidèles, alors là, oui, il rajoute quelque chose, une complémentarité par rapport au sacerdoce du Christ. Donc, aucun intérêt. Du point de vue de la sainteté, si vous voulez. Aucun intérêt. C'est pour les autres. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que peut-être c'est méritoire du point de vue surnaturel. Mais pas à cause du sacrement. Alors, je reprends ici les prêtres. Vous voyez, constituent avec leur évêque un seul presbytérium, participent à un degré subordonné à l'Église, à l'unique sacerdoce du Christ. Vous voyez bien donc que, à travers ce qui vient d'être dit ici pour le caractère du prêtre épouse de toute l'Église, c'est vrai dans la mesure où vous avez la présence donc sacerdotale, présence réelle. Lui, je vous le répète, icône. Hein. Donc toi tu disais présence du Christ. Moi je lis ici icône. Oui, icône. Mais présence réelle du Christ éternellement prêtre, si vous voyez à travers lui tous les autres prêtres et l'évêque qui est au-dessus de lui et tous les et le pape qui est au-dessus de l'évêque et tous les autres évêques. Et tous les évêques qui sont au ciel, dans la gloire, et tous les prêtres qui ont jamais existé. Si vous voyez à travers lui la présence de tous les autres prêtres, ceux qui sont déjà au ciel, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont sur la surface de la terre, de tous les autres évêques, de toute la papauté, du collège apostolique lui-même, alors à ce moment-là, oui, si vous faites le lien, parce que c'est une seule vie de sacerdoce. Nous formons un seul corps presbytéral. À ce moment-là, il y a présence réelle. C'est pour ça que tu ne te mets pas à genoux devant ton fils, tu te mets à genoux devant tout le corps sacerdotal qui s'est originé de la blessure du cœur du Christ. Glorieuse. Ah, est-ce qu'on peut adorer? Adorer, en se mettant à genoux, oui, à condition de voir tout le sacerdoce, tous les sacs, tous les prêtres. N'est-ce pas? Ou est-ce que vous comprenez ça? De la même manière que le prêtre, lui, Jésus par exemple, pour ne prendre que lui, bah, quand il prend le pain dans ses mains, de son côté, lui aussi, il aurait fallu que je vous lise un passage merveilleux, d'un prêtre que j'aime beaucoup, qui est ami, qui explique ça, il explique beaucoup mieux que moi, mais je n'ai pas le texte. Il dit, quand il prend le pain, le prêtre, quand il prend le pain, quand Jésus prend le pain et le vin, et qu'il va dire, ceci, hoc est enim corpus meum, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, dans ses mains, il y a le pain, n'est-ce pas? Et quand il dit, ceci est mon corps, à travers ses mains, il voit les mains du curé d'Ars. Il voit les mains de Saint Jean Chrysostome, les mains de Jean à la première communion de la Vierge, les mains de la première messe de Saint Pierre, du premier pape, les mains du pape Jean-Paul II, le jour de son martyr. Il voit les mains du père Patrick, le jour où il en bave d'envie d'aller au ciel. Il voit les mains de Saint François Xavier, après avoir couru sur les rives de Bilbao, vous comprenez? Il voit les mains, toutes ces mains-là, qui rayonnent, qui ont mis le feu eucharistique partout. Toutes ces mains-là sont dans une seule main. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, ceci est mon corps. Et quand le prêtre dit, ceci est mon corps, il dit, ceci est mon corps, il dit, on passe pour cette Eucharistie-là, mais pour tout. toutes les Eucharisties, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Le prêtre n'est jamais seul. Il vit ça dans un corps sacerdotal. Dans la tête, c'est le Christ. Et dans les membres, c'est tous les prêtres. Et donc, toutes les messes sont dites par lui. Toutes les messes de tous les temps sont dites par toi. Quand tu dis ceci et mon corps. Et au ciel, tu auras la gloire correspondante. Tiens, moi, j'ai la messe. Toutes les messes que je dis, bah, c'est pas mal déjà. Oui, oui, mais. Non, non, un peu plus. Mais pourquoi? Ben oui, parce que. Bon, ben moi, je suis d'accord d'être prêtre dans ces conditions. Hein, c'est juteux. Bon, mais c'est pas parce que c'est juteux. C'est génial, c'est grand, si vous voulez. Donc, d'un côté, si vous voulez, vous avez l'accueil du sacerdoce. Puis d'un autre côté, l'activité sacerdotale. L'accueil, c'est féminin. L'activité sacerdotale, c'est masculin. C'est sûr. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est si important, ce lien avec l'évêque. Parce que le prêtre, comme Luther par exemple, qui se sépare de l'évêque, c'est fini. Même sur le plan eucharistique, terminé. Vous comprenez ?
Il a quand même le pouvoir de faire
l'eucharistique. Oui, c'est un pouvoir. Il a pouvoir de faire une. Oui, mais ce n'est pas, un pouvoir qui implique une fécondité vivante au niveau de l'Esprit Saint. Or, le prêtre est source, avant tout, de l'Esprit Saint. D'ailleurs, dans la forme du sacrement, c'est pas ceci est mon corps, mais quand tu le prêtes, on transmet, on dit recevez la plénitude du Saint-Esprit. Pas recevez la plénitude du sacerdoce du Christ, non, recevez la plénitude du Saint-Esprit. Par quoi ? Parce que le sacerdoce du Christ communique l'Esprit Saint. Et donc, il communique beaucoup plus que la grâce, beaucoup plus que la gloire, parce que la gloire, c'est une manifestation, si tu veux, de l'amour. Hein. Mais l'Esprit Saint, c'est la Dieu lui-même, troisième personne de la Trinité, Dieu créateur, Dieu aspirateur, Dieu spirateur, Dieu feu, Dieu incré, Dieu un, qui est communiqué par le prêtre. Alors, tu comprends que s'il est séparé de l'évêque, la fécondité principale qui est l'Esprit Saint n'est pas donnée. Donc si l'Eucharistie est donnée, c'est une Eucharistie, si tu veux, qui est donnée. Oui, c'est valide, si tu veux. C'est valide. Oui, mais c'est pareil, ça reste valide. Mais s'il se sépare du corps tout entier, je veux dire, ça donne la présence de Jésus, mais exactement comme les sacrements de la Sainte Alliance, donner une présence coupée de sa fécondité ultime. Pas encore plénière. Ce n'est pas la fécondité sacerdotale propre. Ça va ? Mais on va voir peut-être petit à petit ça. C'est pour ça qu'il faut être si lié à son évêque, si lié au pape. Et à travers ça, lié à tous les évêques. Remarquez bien une chose, quand vous assistez à la messe, faites comme moi. Moi, je vous donne la petite technique. Bon, vous le gardez pour vous. Oui. Mais bon, comprenez, je vous ai peut-être déjà dit qu'il y a un lien, si vous voulez, entre l'Eucharistie et le sacerdoce. Ça, vous le saviez quand même, vous avez entendu parler de ça. Et alors, lorsque le fruit du sacrement de l'Eucharistie, une fois que le sacrement de l'Eucharistie disparaît, ça y est, le corps de Jésus sacramentellement disparaît. Hein ? Il est dilué par la digestion. Alors, à ce moment-là, il ouvre sa coque disparaît, si je puis dire, la présence réelle sacramentelle disparaît. Qu'est-ce qui reste à la place ? Saint Thomas d'Aquin dit la conversio eucharistica. La véritable Eucharistie arrive. Hein. Le fruit du sacrement de l'Eucharistie. La conversio eucharistica. Ça veut dire que c'est le fruit du sacrement qui apparaît. Ça veut dire que au début, c'était le corps de Jésus ressuscité. Et quand le sacrement de la présence du corps ressuscité du Christ disparaît, si vous voulez, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste ? Il laisse la place à quoi ? Il laisse la place à tout le corps mystique de Jésus. Donc, toutes les portes s'ouvrent, écluses du haut, écluses du bas, écluses du côté, écluses du côté septentrional. Toutes les écluses s'ouvrent et c'est la présence de toute l'Église des saints, de tous les saints qui viennent être présents C'est le corps mystique tout entier. Tous les âmes du purgatoire. Tous les hommes assoiffés d'amour qui ne connaissent pas encore leur rédempteur, mais qui sont assoiffés d'amour, hommes de bonne volonté. Et tous ceux qui vivent du baptême et de la grâce, ceux qui vivent du baptême et de la grâce rentrent par la blessure du cœur. Ici. La lumière de gloire, de la vision béatifique dont jouissent les saints rentre par là. N'est-ce pas? Par le haut, par la nefesh, par la roue. Ceux qui sont à mon côté, les hommes, dans la recherche de la soif de Dieu, rentrent par le côté gauche, plus proche du cœur. Et oui, et par le bas, tous ceux qui souffrent dans le purgatoire, des milliards d'êtres humains reliés vitalement au Christ et qui constituent le corps mystique, le corps eucharistique véritable du Christ, deviennent réellement présents tout de suite après la disparition du sacrement de l'Eucharistie. Vous le saviez, ça. Présence réelle. Pas corporelle. Pas corporelle. Présence réelle. Pas per modum. Per modum sacramenti. Pas par mode de sacrement. Ni par per modum substantié. Pas par modum de transsubstantiation. Mais c'est une présence per modum caritatis. Par mode de charité. Et per modum vitae. Et par mode de vie. C'est une liaison vivante, comme un torrent est lié à un autre torrent, parce qu'il va dans le même fleuve. On a le fleuve et toutes les eaux du torrent. Et tous sont présents, tous sont présents, tous, réellement. Ici, en moi, tout de suite après l'Eucharistie. C'est pour ça que l'Eucharistie nourrit la charité fraternelle. Bon, eh bien, de manière analogue, c'est pour ça qu'il faut, après la communion, vivre l'action de grâce, parce que c'est à ce moment-là que cette mutation apparaît. Et une fois que tous nous sommes là, on se baigne dans le bain de gloire, de l'amour du Père, du pardon, de la miséricorde, de la vision. Vous comprenez ? Voilà. Mais pour le sacerdoce, pareil, vous voyez bien. Mais quelque chose d'analogique, vous voyez, il faut faire la petite analogie. Là, lorsque vous assistez à la messe suivante, c'est toute l'Église qui est là. Toute l'Église qui est là, tous vos frères qui sont là en vous, et puis qui reçoivent le Christ prêtre, qui rentre dans l'Église, qui monte à l'autel. Voilà. À travers ce prêtre-là, tous les autres prêtres du monde qui viennent à vous, ainsi que le Christ prêtre qui vient à vous. C'est extraordinaire, ça. Tous. Là, c'est extraordinaire. Et je le commande tout de suite après. Bon. Pas tout de suite, pas maintenant, mais dans une heure. À la lumière de ce qui a été dit sur son identité, paragraphe 20. La communion du prêtre se réalise surtout avec la première personne de la très sainte Trinité, le Père. Origine ultime de tout pouvoir. Je suis sûr que c'est une mauvaise traduction. Origine ultime de toute potentia, donc de toute puissance d'amour, si vous voulez, hein. Potentia en latin, c'est pas pouvoir. Hein. C'est puissance d'amour. C'est l'amour dans toute sa puissance. Potentia. Et on sent bien potentia. C'est pas puissance. Torrent d'amour, quoi. Une puissance. Origine ultime de tout pouvoir. Avec le Fils. Dont il participe de la mission rédemptrice, communion aussi avec l'Esprit Saint, qui lui donne la force pour vivre et réaliser cette charité de Père, cette charité pastorale, en le qualifiant sacerdotalement. En effet, pape Jean-Paul II, citation du pape Jean-Paul II, qui est en train de suivre, et c'est, je vais m'arrêter là avec ça. On ne peut pas définir la nature et la mission du sacerdoce sacramentel ou ministériel hors de cette trame multiple et riche des rapports qui ont leur source dans la très sainte Trinité et qui se prolongent dans la communion de l'Église comme signe et instrument dans le Christ de l'union des hommes avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. De cette communion, union fondamentale avec le Christ, l'Église et l'unité de tout le genre humain, et la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, découle pour le prêtre sa communion-relation avec l'Église dans ses aspects de mystère et de communauté. En effet, alors là, écoutez bien, c'est à l'intérieur du mystère de l'Église, comme mystère de communion, pour recevoir le prêtre comme prêtre, et le prêtre reçoit toute l'Église, comme épouse. C'est à l'intérieur du mystère de l'Église, comme mystère, alors c'est à ce moment-là, l'unité de tout le genre humain se fait. Hein? Si on fait ça. Toute l'unité du genre humain se fait. Donc, en effet, c'est à l'intérieur de ce mystère de l'Église, comme mystère de communion trinitaire en tension missionnaire. Alors là, je vais vous le commenter, ça, tout à l'heure. Hein? C'est ça que je vais vous commenter. C'est absolument extraordinaire. Et en plus, c'est concret. Vous allez voir qu'il y a des implications pratiques sur la manière d'en vivre. Hein. On va essayer de voir ça. Comme mystère de communion trinitaire en tension missionnaire que se révèle toute identité chrétienne et par conséquent l'identité spécifique et personnelle, toute identité chrétienne, et donc l'identité spécifique et personnelle et donc exclusive, eh bien, du prêtre et de son ministère. Nous allons commenter ça.